Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Droits et libertés, To Go, Québec Science et Bel Âge. Au programme, le secteur de l'intelligence artificielle et l'embourgeoisement de Parc Extension. Stimulez votre cerveau, 6 trucs à garder en tête. Reconnaissez-vous le Québec qui chiale et des passe-temps qui nous font du bien. Bonne écoute.
Le secteur de l'intelligence artificielle et l'embourgeoisement de Parc Extension, un article paru dans le numéro printemps-été 2022 de la revue Droits et libertés, sous la signature d'un collectif de chercheurs, chercheuses et militants-militantes. Leurs noms? Alessandra Renzi, Tamara Vukov, Emmanuel Gay, Sepide Chahamati, Yannick Baumann, Simone Chen et Montserrat Imperador Badimon. Le secteur de l'intelligence artificielle, IA, occupe une place de plus en plus importante parmi les stratégies de développement économique à Montréal, notamment par le biais de partenariats entre les pouvoirs publics, le milieu de la recherche et des entreprises spécialisées dans les hautes technologies et les données massives, Big Data. Le gouvernement provincial a annoncé en 2019 l'octroi de 80 millions de dollars sur 5 ans à l'Institut québécois de l'intelligence artificielle MILA, auquel s'ajoute un financement fédéral de 44 millions par l'entremise de l'Institut canadien de recherches avancées. Les dernières années ont aussi été marquées par l'établissement, dans le quartier Marconi-Alexandra, de compagnies telles que Element AI, Microsoft et Ivado, ainsi que par l'ouverture du Campus 1000 en septembre 2019 et la mise en chantier d'un centre d'innovation en intelligence numérique. Ces deux établissements, associés à l'Université de Montréal, visent entre autres à soutenir l'écosystème de l'IA au Québec. L'essor de Montréal, comme un pôle international de l'IA, est souvent présenté comme une excellente nouvelle dont nous devrions tous et toutes nous réjouir. Des craintes ont toutefois été partagées par rapport aux risques que représente ce secteur, comme en témoigne la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Cette déclaration, promue entre autres par le professeur Joshua Bengio, compte parmi ses principes le bien-être, la solidarité, la participation démocratique, l'équité, l'inclusion de la diversité, la responsabilité et le développement soutenable. Comme auteur de l'article, nous sommes des chercheurs, chercheuses et des militants, militantes qui travaillent en étroite collaboration avec différentes initiatives communautaires à Parc Extension. Ce quartier est adjacent aux nouvelles installations de l'Université de Montréal. Il est situé à proximité de Marconi-Alexandra et il est caractérisé par un taux de pauvreté élevé. Une proportion importante de sa population issue de l'immigration récente et un embourgeoisement qui s'accélère depuis quelques années. Nous souhaitons mettre en lumière ici l'impact du secteur de l'IA sur l'embourgeoisement de Parc Extension, puis ses conséquences pour les locataires à faible revenu du quartier. Nous concluons notre article en proposant 3 pistes de solutions, soit une collaboration plus étroite entre le milieu de la recherche et les initiatives communautaires locales, l'élaboration d'une entente sur les avantages communautaires, Community Benefits Agreement, entre le secteur de l'IA et les résidents résidentes des quartiers concernés, ainsi qu'une plus grande transparence de la part de ce secteur et des pouvoirs publics. Les recherches que nous menons à Parc Extension, en collaboration avec des organismes locaux, nous ont permis de constater que le secteur de l'IA et les nouvelles installations de l'Université de Montréal qui leur sont associées contribuent grandement à l'embourgeoisement de Parc Extension, ce qui correspond à des tendances observées dans d'autres villes, comme New York, Los Angeles et San Francisco. L'arrivée d'entreprises de haute technologie et de nouveaux campus universitaires favorise une hausse importante de la valeur des propriétés dans les quartiers environnants et l'avenue de nouvelles résidentes et de nouveaux résidents plus fortunés, y compris des personnes qui travaillent pour ces entreprises et ces universités. Cela encourage les propriétaires à augmenter de façon radicale les loyers et à effectuer des rénovictions qui consistent en l'éviction de locataires afin de rénover un logement et d'accueillir ensuite d'autres locataires avec des revenus plus élevés. Le rapport « 1000 façons de se faire évincer, l'Université de Montréal et la gentrification à Parc Extension », paru en juin 2020, a mis en lumière la réorientation du marché locatif de Parc Extension autour des jeunes professionnels et des étudiants-étudiantes qui se manifestent notamment dans les loyers offerts et les stratégies publicitaires utilisées par les propriétaires et les promoteurs immobiliers. Un rapport produit récemment par le Digital Divides Project et le Réseau de recherche action communautaire de Parc Extension, CBAR, examine l'impact du secteur de l'IA sur l'embourgeoisement de Parc Extension ainsi que les conséquences dévastatrices de ce processus pour les locataires à faible revenu. Ces locataires sont de plus en plus souvent obligés de se reloger, après une éviction, dans des appartements trop petits pour le nombre de personnes qui les habitent, de couper dans des dépenses essentielles comme la nourriture ou les médicaments afin de pouvoir payer des loyers plus élevés qu'auparavant, ou encore de quitter le quartier en rendant ainsi plus difficile leur accès à différents services et réseaux de soutien. Ces réseaux et ces services sont particulièrement importants pour les résidents et résidentes issus de l'immigration récente, puisqu'ils ont de plus fortes probabilités d'être allophones et d'avoir un statut précaire. La manière dont l'IA se développe actuellement nuit au respect de plusieurs principes contenus dans la Déclaration de Montréal, notamment l'équité et la solidarité. Bien que les réalités exposées ici soient préoccupantes, nous pensons que des solutions peuvent être mises de l'avant pour assurer une meilleure prise en compte des besoins et des aspirations des locataires de Parc Extension. Une première avenue à envisager est l'établissement de collaboration entre des personnes issues du milieu de la recherche et des initiatives communautaires afin d'encourager des projets et des stratégies de collecte de données qui contribuent aux luttes des résidents-résidentes ainsi qu'au travail des organismes locaux. Nous avons ainsi lancé, en novembre 2021, deux cartes interactives portant sur les évictions et les mobilisations pour le droit au logement à Parc Extension, en partenariat avec le Comité d'action de Parc Extension, CAPE. Ces cartes visent tant à montrer l'ampleur et les conséquences de la crise du logement dans le quartier qu'à promouvoir des initiatives menées par les locataires pour contrer cette crise. Une deuxième avenue qui mérite notre attention est l'élaboration d'une entente sur les avantages communautaires pour s'assurer que les résidents-résidentes de Parc Extension bénéficient réellement de l'expansion du secteur de l'IA avec des offres d'emploi ciblées et des investissements dans des projets locaux, notamment dans le domaine du logement social et communautaire. Une troisième avenue à envisager et l'adoption d'une approche plus transparente par le secteur de l'IA et les pouvoirs publics. Par exemple, des projets d'IA qui sont jugés nuisibles par les communautés concernées pourraient être l'objet d'un moratoire. Ces trois avenues font partie d'un ensemble plus large de solutions qui permettraient au secteur de l'IA de reconnaître pleinement sa responsabilité sociale et d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Les stratégies proposées ici doivent être menées en collaboration avec les résidents et les résidentes et les organismes de Parc Extension en respectant leur leadership et en encourageant leur participation tout au long du processus, notamment avec une compensation adéquate pour leur temps. Nous ne pouvons pas tolérer, en tant que société, un modèle d'innovation technologique qui externalise les coûts associés à son développement et qui affecte négativement les locataires à faible revenu en niant ainsi leur contribution à la vie sociale et culturelle de nos quartiers et leur droit à la ville. Vous venez d'entendre lecture d'un article paru dans le numéro Printemps-été 2022 de la revue Droits et libertés sous le titre « Le Big Data contre le droit à un chez-soi ». Cet article a été rédigé par un collectif de chercheurs-chercheuses et militants-militantes. Leurs noms sont Alessandra Renzi, Tamara Vukov, Emmanuel Gay, Sepide Shahamati, Yannick Baumann, Simone Chen et Montserrat Emperador Badimou. Stimuler votre cerveau, six trucs à garder en tête. Un texte de Louis Bérère, paru le 9 août 2022 dans Togo. Tout comme l'exercice améliore notre santé physique, faire travailler notre cerveau garde l'esprit vif en aiguisant notamment notre mémoire et nos capacités de réflexion. Voici six façons simples de stimuler notre cerveau. 1. Varier nos activités pour la santé du cerveau. Notre cerveau continue à s'adapter tout au long de notre vie et à créer de nouvelles connexions entre les neurones. C'est ce qu'on appelle la plasticité. Pour faire travailler les différentes régions du cerveau et préserver nos fonctions cognitives, on doit varier nos activités et s'exercer régulièrement, surtout quand on vieillit. Pas besoin d'avoir envie de devenir nomade pour apprendre l'italien ou l'espagnol, que ce soit avec une application comme Duolingo, par exemple, ou en suivant un cours en présentiel, l'apprentissage d'une nouvelle langue garde le cerveau en forme. Écouter ou jouer de la musique améliore la mémoire et la créativité. Apprendre à lire ou à jouer de la musique est plus facile que jamais grâce à des tutoriels en ligne, dans YouTube, entre autres. On peut aussi aller sur une plateforme d'écoute en continu comme Spotify pour créer des listes de lecture et écouter nos chansons préférées quand on le désire. Explorer aussi le monde des balados. Sortir pour assister à une conférence, voir une expo au musée ou assister à une pièce de théâtre ou un concert est aussi bon pour le cerveau, tout comme le fait de partager ces moments avec des proches. S'inscrire à un cours de photographie, d'informatique, de cuisine, de jardinage. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et tous les moyens sont bons pour tenir nos neurones occupés. 2. Faire les choses différemment pour stimuler notre cerveau. Notre cerveau aime les défis. Ça lui permet de rester alerte. Pour ce faire, rien de mieux que de sortir de notre zone de confort et de changer notre routine. Comment ? Par des petits gestes tout simples comme prendre un chemin différent pour se rendre au travail, entrer dans une autre épicerie pour faire nos courses, passer une journée sans réseaux sociaux ou même sans écran, tester de nouvelles recettes, écouter des artistes qu'on ne connaît pas, changer de place à table, manger avec des baguettes, écouter un livre plutôt que le lire, se brosser les dents avec la main non dominante. 3. Faire profiter notre cerveau des tâches imposées. Avouons-le, les tâches ménagères et autres tâches routinières nous passionnent rarement. C'est pourtant une bonne façon de faire travailler notre cerveau. Établir une liste des corvées quotidiennes et saisonnières, faire un budget, organiser nos menus, prévoir un moment pour payer nos factures, tenir notre agenda à jour. Toutes ces tâches demandent à notre cerveau d'être actif. 4. Faire de la lecture une habitude. La lecture, en sollicitant notamment notre attention, notre perception visuelle et l'organisation des informations, contribue à préserver notre mémoire. Voici différentes façons de faire de la lecture une habitude. Se joindre à un club de lecture. Fréquenter la bibliothèque municipale pour varier ce qu'on lit. Faire la lecture à nos petits-enfants en personne ou via FaceTime ou Skype. Devenir bénévole dans une école pour lire et faire lire. S'abonner à un magazine ou au journal local. 5. Travailler avec nos mains. On a souvent l'impression que les activités intellectuelles sont plus valorisées que les activités manuelles. Pourtant, celles-ci améliorent notre motricité et incitent à la concentration. La création d'un objet artistique ou artisanal, peu importe le résultat, constitue un entraînement intellectuel. On peut se lancer dans la peinture, le coloriage, le tricot, la couture, la poterie, la menuiserie, la sculpture. 6. Jouer à des jeux pour activer nos neurones. Les jeux constituent un excellent moyen de faire travailler la mémoire et le cerveau en général, et certains jeux mettent au défi notre logique et nos habiletés stratégiques. On peut jouer aux cartes, au Scrabble, aux échecs, aux dames, faire des mots croisés, des sudokus, des casse-têtes, des jeux questionnaires, etc. On profite de toutes les occasions pour jouer, que ce soit en solo, en famille, avec des camarades ou des gens du voisinage. L'entraînement cérébral, oui ou non? Plusieurs applications mobiles proposent des jeux cérébraux pour améliorer les capacités cognitives. Bien qu'il soit une option préférable au fait de regarder la télé, par exemple, rien n'indique qu'ils font des miracles pour garder notre cerveau en forme. À force de les faire, on améliorera bien sûr nos compétences dans les différents exercices proposés en ligne, mais ces compétences acquises ne seraient pas nécessairement transférables dans la vie quotidienne et aucune étude ne prouve qu'ils peuvent prévenir la maladie d'Alzheimer ou les autres formes de troubles cognitifs. Bref, on peut s'y adonner si on aime ça. C'est un moyen parmi tant d'autres d'apporter de la variété dans nos activités intellectuelles. À ne pas oublier. Toutes ces idées sont importantes, mais encore faut-il, pour profiter de leurs bienfaits, avoir de saines habitudes de vie. Rien de tel que de dormir suffisamment, de manger sainement, de bouger régulièrement et de maintenir un bon réseau social pour avoir un cerveau en santé. Merci au Dr. Louis Bérère, neuropsychologue, directeur adjoint scientifique à la direction de la prévention et directeur du Centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal, pour sa collaboration à cet article. C'était le texte « Stimuler votre cerveau, 6 trucs à garder en tête », un texte de Louis Bérère, paru le 9 août 2022 dans « Tout go ».
Reconnaissez-vous le Québécois qui chiale? Un texte de Renaud Manuguerra-Gagné, paru le 19 janvier 2023 dans Québec Science. Une Française qui écoute un Québécois chialer, aura-t-elle moins d'empathie pour lui que pour un plaignard à l'accent de France? La réponse est plus complexe qu'on pourrait le penser. L'empathie, soit la capacité à s'identifier à autrui et à ressentir ses sentiments. Voilà un concept dont on parle beaucoup depuis quelques années. C'est pourtant un phénomène peu étudié, affirme Maëlle Mauchamp, étudiant de doctorat en neurosciences à l'Université McGill. Les scientifiques analysent souvent l'empathie dans des situations de crise où la douleur et la misère sont visibles. Mais l'empathie, cela passe aussi par de petits détails qui permettent d'établir des liens avec des inconnus. On comprend encore mal son rôle dans les interactions quotidiennes, dit-il. C'est pourquoi il s'est penché sur un cas banal à Montréal. Les discussions entre des personnes nouvellement immigrées de France et des Québécois. Plusieurs travaux ont déjà montré l'importance de la tonalité de la voix ou des différences culturelles dans les niveaux d'empathie exprimés par un interlocuteur. Le jeune chercheur voulait vérifier si les accents qui imprègnent la voix d'un contexte culturel influencent aussi l'empathie. Les Français qui viennent d'arriver à Montréal connaissent peu l'accent québécois, sont plus ou moins intégrés et ont énormément de biais. On s'est donc demandé si cela avait une incidence sur leur capacité à ressentir de l'empathie pour des Québécois, mentionne-t-il. L'étudiant a recruté 26 Français et Françaises. Ils ont écouté des centaines de phrases lues par des auteurs français ou québécois, certaines sur un ton neutre et d'autres sur un ton plaintif. Pendant que les sujets évaluaient l'intensité des émotions, un électroencéphalographe mesurait leur activité cérébrale. Le constat de l'étude, publié dans la revue scientifique Neuropsychologia, est rassurant. Dans ce contexte, l'accent ne semble pas influencer la réaction empathique. On a plusieurs façons d'appréhender les signaux vocaux, indique le chercheur. Le ton et le contenu pourraient être assez importants pour diminuer le rôle de l'accent dans la réaction d'empathie. La différence culturelle n'est tout de même pas sans effet. On a vu une différence marquée dans la façon dont le signal est analysé par l'auditeur, spécifie Maëlle Mauchamp. Lorsqu'un Français écoute les plaintes d'un compatriote, on a une réponse rapide associée à l'activité cérébrale. Cela s'apparente à de l'empathie dite affective, c'est-à-dire quand on ressent ce que les autres vivent de façon intuitive, sans réflexion. Lorsque l'accent est québécois, cette réaction en lien avec l'activité cérébrale est plus tardive, évoquant plutôt de l'empathie cognitive, qui nécessite l'analyse et la remise en contexte des stimulus afin de les comprendre. Bien que ce résultat demande à être confirmé dans d'autres contextes culturels, en ce qui concerne les relations France-Québec, si vous faites face à un manque d'empathie en voyage, ces résultats laissent entendre que ce n'est pas simplement une question d'accent. C'était « Reconnaissez-vous le Québécois qui chiale ?» un texte de Renaud Manuguera-Gagné, paru le 19 janvier 2023 dans Québec Science.
Des passe-temps qui nous font du bien. Un texte de Ève Martel, paru dans Bel Âge. Un cerveau occupé est un cerveau en santé. Voyons pourquoi nos loisirs nous aident à avoir un esprit vif et un moral haut. Lorsque je me concentre sur un de mes passe-temps préférés, comme la cuisine ou le soin de mes plantes, je me plonge dans un état d'esprit où la concentration nécessaire à mes tâches me procure du bien-être et une détente totale. Et quand j'adopte un nouveau loisir, mon cerveau se sent comme un carnet dans lequel on écrit pour la première fois les notes d'une chanson. Curieux et heureux d'être stimulé, il me dit merci en me donnant une bonne dose d'hormones du bonheur. Adopter et cultiver un loisir est une des meilleures façons de se détendre et de prendre un moment pour soi. Et il est très important de le faire. Investir son temps dans la pratique d'un hobby est un placement assuré de générer des dividendes de bien-être. Qu'elle soit sportive, artistique, manuelle ou créative, les activités qui nous animent nous procurent de la joie et, souvent, de la fierté. En développant aussi de nouveaux intérêts, nous aidons à garder notre niveau d'attention sain, à élargir notre cercle social et à nous sentir accomplis. Voici trois raisons d'adopter un nouveau loisir immédiatement ou de renouer avec une ancienne passion. Pour améliorer sa mémoire. Stimuler plus souvent notre mémoire et notre dextérité mentale peut aider à ralentir la perte de certaines fonctions cognitives. Comme une voiture que nous laissons se réchauffer un peu en hiver, avant de prendre la route, le cerveau aime recevoir les petits stimulus liés à nos hobbies. Cette revitalisation l'aide à bien fonctionner devant des tâches plus complexes. Quelques idées à essayer: mots croisés, sudoku, casse-tête et romans policiers en essayant de résoudre l'énigme. où on peut organiser une soirée quiz où chacun crée une catégorie de questions. Un beau défi pour tous. Pour élargir son réseau. S'inscrire à un atelier d'artisanat ou à un rendez-vous hebdomadaire comme celui d'un club de marche permet de se faire de nouveaux amis. Ce bain d'humanité est vital pour réduire la sensation d'isolement qui nous rend parfois maussade ou mélancolique quand on habite seul. Les communautés virtuelles liées à un loisir peuvent aussi être riches en nouvelles connaissances. Par exemple, un passionné d'histoire pourra tisser des liens avec d'autres gens qui partagent cet intérêt via un groupe Facebook et même participer à des événements où il pourra rencontrer ses nouveaux amis via des activités thématiques. Pour décrocher un peu, adopter un nouveau passe-temps est à la fois stimulant et relaxant, en plus de nous sortir de notre routine. On peut ainsi libérer le stress accumulé et décrocher des tâches moins roses du quotidien. En apprivoisant une nouvelle activité manuelle ou sociale, nous développons aussi un sentiment d'accomplissement, une satisfaction du travail bien fait. Les nouveaux loisirs nous rappellent qu'il n'y a pas d'âge pour continuer à apprendre, à créer, à partager. Alors, on met un hobby, nouveau ou ancien, à notre agenda cette semaine? Pour garder mon esprit vif, j'ouvre mes horizons, je stimule mes neurones, je sors de ma routine. C'était « Des passe-temps qui nous font du bien », un texte de Ève Martel, paru dans Bel Âge.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage, Dominique Desrosiers, Hélène Lamarche à la lecture, Pierre Duclos, Diane Métayer et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.